de l'or, une émission de Jérôme Peignot et Michel Cohen, avec aujourd'hui la participation de Jacques Scheicher, extrait lu par Florence Delay.
Tumultueuse de la publication de ses écrits, mais tout cela ne doit pas occulter justement ses écrits même, ses textes.
Le point essentiel est là, effectivement, on a beaucoup parlé de cette affaire L'Or et on a beaucoup oublié même les écrits. On les a oubliés parce que finalement ils ne pouvaient pas paraître, on ne pouvait pas y avoir accès. Cependant, et nous allons aujourd'hui avec Jacques Scheicher entrer dans le vif du sujet et parler des écrits de L'Or. Cependant, je pense qu'avant d'en venir là, et pour en terminer avec l'affaire L'Or, il est bon de dire quand même que l'affaire des papiers, de la publication des écrits de L'Or, s'inscrit finalement dans le droit fil de ses écrits eux-mêmes. Ce sont des écrits autobiographiques et l'interdit qui pesait sur eux venait de la part des ayants droit qui ne voulaient pas que son œuvre fût connue. Et nous allons voir pourquoi ils ne le voulaient pas. Voilà, je crois, ce que l'on peut dire avant d'entrer dans le sujet.
Moi, ce qui me retient dans ces textes courts, finalement, puisque étant morte jeune, il n'a pas pu mener ce qu'on appelle une œuvre, c'est justement l'absence d'œuvre qui m'intéresse. Et plutôt que de parler de l'histoire d'une petite fille, qui est un texte organisé, terminé, à caractère autobiographique, fort passionnant en lui-même, et significatif de la situation d'une femme dans une époque donnée, dans une bourgeoisie donnée, des années 35-38 avant la guerre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pour ma part l'or dans sa biographie telle qu'elle apparaît comme une théoricienne possible et dans des textes qui n'ont pas été achevés, qui ne sont pas aboutis, qui sont comme un journal, comme des notes de travail, comme des espèces de phrases jetées un peu d'une manière extatique dans l'emportement d'une écriture et d'une réflexion. Et qui ont été réunis par bataille, je crois, sous le titre « Le sacré ». Et c'est la notion du sacré qui me semble la plus, pour moi, la plus intéressante, bien que non aboutie, et qui rappelle bataille, qui rappelle les méditations de bataille, méthodes de méditation qui apparaissent à la fin de l'expérience intérieure, mais qui disent autre chose, autrement, et qui finalement vont parfois plus loin ou autrement loin que les textes méthodes de méditation de bataille.
En fait,
le côté communication sacrée.
Oui, oui. Qui en fait, ce que je vois, moi, c'est qu'il n'y a pas finalement une césure, une séparation comme ça, d'un côté de soi d'une petite fille, puis de l'autre côté sacré. En fait, c'est la même chose. J'ai d'ailleurs retrouvé au moment de la mise au point du manuscrit, des doublons, des redites, des passages de l'histoire d'une petite fille qui se retrouvent dans le sacré.
À ce propos, je voudrais peut-être te dire une chose, c'est qu'il me semble que les doublons, les répétitions, tels qu'ils s'organisent dans le sacré, un texte en cours, sont intéressants. Parce que c'est comme si, enfin c'est une hypothèse, c'est comme si l'art avait repris dans une autobiographie des parties en vue d'un texte plus théorique, d'un texte plus fictionnel. Et ces reprises ne sont pas du hasard. C'est chaque fois des reprises sur le thème de la solitude, de l'impossibilité de communiquer avec la famille, avec les amis, et sur ce que pourrait être une communication, ou ce qu'elle appelle des états pré-sacrés. Tout se passe dans la communication comme si l'art, d'une part, réagissait contre son milieu familial, enfin c'est évident. Il y a par exemple un texte très touchant, c'est le dernier poème, qui est le dernier texte qu'elle a écrit, je crois, quelques jours avant sa mort, et où elle se met en scène dans ce milieu, dans sa maison familiale, où elle dit une pièce toujours fermée, surchauffée, seule présente, vivante, elle parcourait les espaces vides entre les mannequins, portant tous son masque. Mais c'est pas uniquement une réaction contre la famille, mais aussi une réaction contre son milieu intellectuel en désir de famille. Et il y a dans ce texte une critique des intellectuels parisiens, y compris de Bataille, des gens qui bavardent autour d'elle, et d'elle-même bavardant avec ces gens-là, et à ce moment-là, c'est une critique intéressante parce qu'elle se met au rang de ce qu'elle appelle les singes très savants. Nous sommes tous des singes très savants. Et à ce statut de singe savant et parlant, dans le savoir, donc ça n'a plus rien avec la famille. Et ça me semble plus important qu'une révolte, après tout, aujourd'hui, banale, contre un milieu familial, dont la seule originalité, c'est que c'était une des premières fois que ça se produisait avec tant d'éclat. Mais la seconde révolte me semble plus intelligente et intéressante d'une femme entourée d'hommes, parlant, savant, et elle-même dans ce discours du savoir, et disant finalement, face à cela, impossibilité d'échange vrai. Et alors, il y a toute une idée qui apparaît, et qui est finalement le refus de disséquer des idées, d'épiloguer sur le désespoir. Et elle répond oui, ou tout de suite le revolver. Et théorisant ce nouveau, quelque chose apparaît, qui est à ce moment-là le refus de l'idéalisme, y compris de l'idéalisme intellectuel, qui pouvait caractériser son milieu non familial. Et un texte comme Oshiat les sommets, l'idéalisme des gens qui s'en vont sur une haute montagne et sont écrasés par cette montagne, Oshiat les grands sentiments, les passions pesantes, que tout chavire, que nos mères soient maquerelles, que nos femmes soient putains, nos filles violées. Et il y a chez lui une tentation face aux intellectuels hommes de son époque et à son milieu familial d'être une putain. Et une fascination pour la prostitution qui est tout à fait différente de celle de Bataille de Madame Edvarda, fascinée par les prostituées. Mieux vaut la putain communicante que le milieu familial où des gens très cultivés, intelligents, philosophants et qui empêchent l'or de dire ses paroles. Et je crois que l'or a été, si l'on veut, mis dans une situation d'impossibilité d'écrire. Peut-être parce qu'elle avait des limites d'écrivain, après tout. Peut-être qu'elle n'aurait jamais rien produit, qu'on mythifie. Mais un des obstacles a été, je crois, Bataille, Lyris, tous ces hommes qui en même temps ont une grande importance pour elle, lui empêchant d'assumer sa propre parole.
Oui, c'est-à-dire qu'au travers de ce refus de tout bavardage, de toute mondanité, de toute parole savante, ce qu'on peut voir aussi chez l'or, c'est qu'il y a constamment une recherche de soi. Enfin, et c'est ce qui apparaît aussi dans ce thème de la communication.
Oui, je crois. Oui, je crois que la recherche de soi, ce n'est pas une recherche purement solipsiste et individualiste. Et c'est ici que son idée de la communication, qui évidemment recoupe celle de Bataille, comme si elle avait trouvé son idée à partir de tout ce qui se passait autour de Bataille, des sociologues qui travaillaient sur la communication. C'est très différent, parce qu'en même temps, il y a un fond autobiographique, c'est le déplacement de soi. Sans arrêt, elle parle, la vie exige le mouvement, la vie, ben, c'est le cours du sang. Sans arrêt, il y a ce thème du refus de la permanence, de l'ennui de la permanence, et la nudité, finalement, de la communication va apparaître dans le déplacement continu, ce qu'elle appelle aussi la corrida.
C'est ça.
Alors, mais qui est à la fois l'acte le plus solitaire, il faut imaginer une corrida pour soi tout seul, et en même temps une corrida qui passe par le rapport à autrui, rapport impossible peut-être.
Oui, alors justement, tu as prononcé le mot important, ce mot de corrida, et tu as parlé de Maurice. En fait, je ne crois pas tout à fait sur ce point-là, c'est un détail. Tu dis, il a été un peu étouffé, empêché d'écrire par Léris et par Bataille.
Et par d'autres.
Et par d'autres. Et par la littérature. Mais c'est l'œuvre elle-même qui a donné des leçons d'écriture à ces messieurs, que ce soit Léris ou Bataille. C'est elle qui se trouve à l'origine de la littérature considérée comme une tauromachie. Et l'idée finalement centrale de l'or, je ne m'écarte pas de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la communication, c'est que la seule écriture, c'est la vie. C'est avec sa vie même, à l'image du taureau dans l'arène, aux prises avec le taureau, et qui risque ce fameux coup de corne dont Léris a parlé par la suite, et qu'il a théorisé dans un ouvrage qu'il a préface à l'âge d'homme, qui s'appelle « De la littérature considérée comme une tauromachie ». C'est ce coup de corne qui compte. C'est le risque que l'on prend dans sa vie, et c'est cela la véritable écriture. Une écriture sur le papier ne viendra qu'après, pour vous rappeler à l'ordre, si on a l'occasion.
Je voudrais risquer une hypothèse, enfin, je me demande si... Il y a quelque chose qui me gêne, finalement, dans tout cela. C'est que Bataille a près de lui une femme sans doute exceptionnelle. Il ne sait même pas qu'elle écrit. Il le devine, il apprend plus tard, enfin bon.
À sa mort, le jour de sa mort même, de son
agonie. C'est quand même très curieux. Oui. Bataille, comme tout écrivain homme, entre guillemets, je ne vais pas faire ici un féminisme simpliste, enfin voilà quand même, se sert de la vie des gens, de sa vie et de celle d'une femme. Il écrit sur son cœur, avec elle. Il en fait de la littérature, même si c'est plus de la littérature. Mais l'or ne peut pas, peut-être aussi en tant que femme, privée de sa parole, faire la même chose avec le corps de Bataille, le corps de Léris ou d'autres. Donc elle est vraiment dans la situation de l'écriture clandestine. Et c'est pourquoi elle se dit pas de contact vrai, pas de rapport vrai. Quand elle sort d'une réunion avec ses amis, c'est aussitôt pour dire il n'y a pas d'amitié. Et elle est vouée à cette clandestinité. Elle n'ose même pas se dire qu'elle est un écrivain. Et elle n'est pas un écrivain. Et c'est pas une œuvre. Il y a un échec profond dans tout ce qu'elle fait. Finalement, l'or, pour moi, c'est un échec exemplaire, significatif de la situation d'une femme, non seulement dans sa famille, on y insiste beaucoup trop, c'est presque du fait divers pour moi, mais dans un milieu intellectuel avancé et ouvert, où pourtant elle ne peut pas se reconnaître, par différentes impossibilités, aussi celle-là, comme une femme qui écrit et qui fait de la vie une écriture manifeste, d'où son désir, finalement, de ne pas faire une œuvre, de ne rien laisser, de tout détruire.
Son désir, je précise quand même que j'ai retrouvé cette version différente de l'histoire d'une petite fille. C'est un point sur lequel Léris insiste beaucoup. Quand même quelqu'un qui fait cette version d'un même texte, c'est quand même avec la volonté de communiquer quand même, et de transmettre ce travail tout de même.
Comment dire, Jérôme, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, enfin ce n'est pas qu'on connaisse l'or aujourd'hui, mais que nous parlons finalement avec une plus ou moins bonne santé, enfin moi en tout cas, presque allègrement, dans une espèce de métalangage, de quelqu'un qui n'a pas osé écrire publiquement. Et qui en est morte en quelque sorte. Et maintenant cette œuvre publique, cette œuvre dont tout le monde a parlé, va mettre au second plan, va taire cette espèce de faille de la communication et d'impossible que l'or a vécu.
Mais si, parce que ça se transparaît à travers ce qu'elle a écrit. Et précisément, c'est cette faille qu'elle est arrivée à manifester.
Mais nous parlons, importante. Non, mais nous parlons et nous écrivons sur quelqu'un qui, écrivant et faisant plusieurs versions, le fait toujours comme frauduleusement.
Eh oui.
Mais c'est comment garder cette fraude dans ce que nous disons sur elle. Il me semble que mon service à l'ouvrant, c'est de, sans arrêt, restituer, je comprends qu'il faille le faire d'une façon pédagogique, son cadre familial, sa biographie. Il faudrait, peut-être prochainement, oublier tout ça pour en venir à ces quelques textes qui disent, malheureusement, sans y réussir, sans être abouti, ce qu'ils disent, à savoir le sacré.
Pour moi, la notion même du sacré. Le sacré est ce moment infiniment rare où la part éternelle que chaque être porte en soi entre dans la vie, se trouve emportée dans le mouvement universel, intégrée dans ce mouvement, réalisée. C'est ce que j'ai ressenti comme mis en balance avec la mort, scellé par la mort. Cette permanence de la menace de mort et l'absolu enivrant qu'emporte la vie, la soulève hors d'elle-même, projette au dehors le fond de moi-même comme une éruption de volcan, une chute de météore. Les démarches les plus décisives de ma vie ont toujours été accomplies dans un état de transe qui seul me permettait d'agir envers et contre toute entrave, lucidité, faiblesse physique, etc., etc. C'est ce pourquoi j'aurais donné ma vie. Si un être ne peut pas ou plus éprouver ce sentiment, sa vie est comme privée de sens, privée de sacré. Les qualificatifs auxquels vous attribuez un sens sacré, comme prestigieux, insolite, dangereux, défendu, m'apparaissent terriblement chargés de sens et de séduction par eux-mêmes, séduction qui suffit à leur conférer cet envoûtement dans lequel on se sent pris, hors du quotidien, ce déplacement, ce sentiment que quelque chose se passe. Mais pour moi, ce n'est pas là le sacré. Quand vous appelez sacré le fait de défendre un ami contre des impostures, ou plutôt le fait de prendre parti avec éclat et violence pour ce que l'on aime, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce moment où la parole est aussi intense que le sentiment éprouvé, c'est ce que j'appelle, plus simplement, les seuls moments valables de la vie avec les autres. Je me hâte de le dire, il n'y a plus jamais aucun moment valable dans ma vie avec les autres, mais c'est une parenthèse superflue qui m'entraînerait trop loin. Autrefois, je n'admettais que ces moments valables. Et je me renfermais dans un mutisme total quand je n'avais pas la possibilité d'exprimer ce qui m'importait totalement, ou tout au moins ce qui comportait un sens lourd de conséquences, chargé d'expression. Je ne supportais pas plus la banalité chez les autres que chez moi-même, les propos pour ne rien dire. C'était une attitude peu humaine. Je la retrouve dans ce fait, se réjouir extrêmement de voir des amis. Après, dépression profonde, parce qu'on s'aperçoit que rien n'a été échangé de vrai, que l'on a été à côté de soi-même, par la force des choses ou par lâcheté triste. La corrida relève du sacré, parce qu'il y a menace de mort, et mort réelle, mais ressentie, éprouvée par d'autres, avec d'autres. Imaginez une corrida pour vous tout seul. À expliquer longuement. Tout ce qui relève de la raison d'être est sacré pour moi. Raison d'être encore, raison de vie, de mort. Ce qui prive l'existence de toute possibilité de ressentir le sacré maintient des formes, maintient de circonstances extérieures qui ne correspondent pas ou plus à la vérité de l'être. Certains préféreront toujours que le sol manque sous leurs pieds, à tout risque, mort ou folie, mais que la vie demeure. Le contraire. Où l'on arrive, pitoyable comédie, infantilisme sénile, zézément, bégaiement, fausse puérilité, régression, impuissance, et un degré plus bas encore, cynisme, vulgarité, scepticisme, perversion totale de l'être moral. Altération, comme l'eau de la source la plus pure, s'altère dans les marées. Contre ceux qui font de la vie ce marais, jamais assez de cruauté, d'intransigeance, s'en éloigner comme de la peste. Toute émotion poétique est sacrée, d'accord avec vous, en raison. Par exemple, et pour abréger, du suicide de Nerval. Oui, mais la destruction de Rimbaud. Le moment sacré, état de grâce infiniment rare.
Pour l'or, c'est quelque chose d'impossible, c'est l'impossible. Enfin, non, pas le matin aussi.
Et dont parle Blanchot, et dont parlera Bernard Noël quelques années plus tard. et qui est au centre, au fond, de toute notre réflexion sur l'écriture aujourd'hui même, n'est-ce pas?
Ah oui, oui, oui.
Et c'est en quoi la publication de ces textes est quand même quelque chose de très important et d'étonnamment actuel pour nous tous.
Oui. Mais je crois que là, on nous rappelle quelque chose qui maintenant a été dit par des voix différentes. Enfin, c'est que la communication, c'est surtout important à l'époque des mass médias, et de tout le monde communique, tout le monde dialogue, tout le monde parle, tout le monde écrit. Et on rappelle que c'est un moment infiniment rare. Le moment sacré est un état de grâce infiniment rare. Et il y a un double mouvement, comme elle le décrit, il y a d'une part une perte de salle, et en même temps, dans cette perte du moi, une espèce de glissement vers une fusion cosmique. Et on peut une image très intéressante, comme une éruption de volcan, comme la chute d'un météore. Et ces moments-là ne sont pas intellectuels, c'est ce qui est intéressant, je crois, et proche de bataille. Mais ce serait une bataille qui ne théorise pas. Et elle appelle ça des états pré-sacrés. Elle donne des exemples. Elle rappelle une scène où elle est couchée sur le gazon, elle a la tête tournée vers le ciel, elle voit le ciel qui bouge, et à un moment donné, elle devient le mouvement de la terre qui tourne. Ou alors, un autre exemple, c'est un moment où elle se regarde à la fois devant deux miroirs, et alors il y a une démultiplication de l'image, et donc une perte de l'identité. Ou bien encore ce moment où son père s'en va à la guerre de 14, on entend une vibrante Marseillaise, le chant du départ, et elle ne fait que chanter ce chant pendant tous les jours qui suivent le départ. Ou bien encore, elle s'imagine toutes les formes de sa mort possible. Et bien, on retrouve ici les leçons de méditation sur la mort, les états souverains vers lesquels bataille vous menez, mais de manière non délibérée, de manière sauvage. Finalement, le projet, qui n'est même pas un projet, la vie que Laure mène, l'entraîne à une espèce d'indistinction entre le moi et l'autre. Donc un dépassement total. C'est son leitmotiv, aller plus loin. Et à force d'aller plus loin, c'est aussi la rétrospection. C'est revenir en arrière et entraîner tout ce qui était vécu vers ce plus loin. Et il y a dans ce mouvement à la fois une grande tristesse, parce qu'une solitude vraiment totale, sur laquelle elle revient sans arrêt, mais elle nous dit que c'est une solitude qui est tonique. Et je crois qu'il y a ici une lecture de Nietzsche qu'elle doit faire conjointement avec Bataille, qui est intéressante. On retrouve des expressions vraiment de Nietzsche, de Zarathoustra, du Voret de Zarathoustra. Oui, qu'elle a beaucoup lu. Et c'est l'idée du grand mépris. Mais le grand mépris, c'est pas du tout une idée triste, c'est une manière tonique de se déposer de soi comme est de la banalité, du bavardage, de l'intellection, de la mondanité intellectuelle, pour finalement arriver à ce quelque chose qui fait qu'on ne sait plus qui on est. Et à ce moment-là commence un moment de solitude et un moment d'ouverture à autrui, même si c'est une fiction d'autrui, même si autrui n'existe pas. Et c'est personne au singulier et personne au pluriel. Et je crois que le sacré, c'est quand on passe de personne aux personnes. Et il y a une espèce d'état interpersonnel où tout est possible, mais c'est rare. Et Laure, je crois, elle le dit, recherche ces états qu'elle appelle iconoclastes. Mais pas un iconoclasme de toc.
Il y a des états pré-sacrés auxquels manque seulement un élément pour compléter le sacré. Pré-sacré dans mon enfance. Par exemple, à 8-9 ans. Dans un jardin, sur une pelouse, je suis étendu. La pelouse présente à un certain endroit une surélévation marquée de forme conique. Je m'installe de manière que ma nuque se trouve exactement au sommet. Ainsi, ma tête est renversée et je peux mieux voir le ciel. La première fois, ma sœur est près de moi, celle à laquelle je pose les grandes questions. Celle en qui j'ai confiance, je lui dis. Mais derrière ce ciel, il y en a un autre. Elle rit. Elle me dit qu'il y en a beaucoup d'autres. Je ris aussi et dis que, bien sûr, puisqu'il y a le septième ciel. Elle devient sérieuse et m'explique que nous sommes environnés de ciel, que la terre tourne, que le ciel n'a pas de fin. Elle part. Je demeure un très long temps là, immobile, songeant à l'infini, essayant de me représenter physiquement l'infini.
Une angoisse terrible me saisit. Mais je ne bouge pas, et j'arrive bientôt à sentir la terre qui tourne. Ma tête, demeurée dans cette position, tournait effectivement et violemment. Chaque soir, au moment où les bruits s'apaisaient, je revenais là, pour trouver cette sensation de terre qui tourne, et me sentir perdu en elle, emporté dans ce vertige. Du même ordre, dans le cabinet de toilette de ma mère, deux grandes glaces se faisaient face. Je me plaçais de manière à interposer seulement ma tête entre les deux glaces et je voyais des têtes innombrables. J'essayais de compter, c'était impossible. Cela m'irritait et je ne me lassais pas d'essayer avec une fatigue extraordinaire et une grande angoisse. Il m'arrivait d'autres fois d'interposer des objets et de les bouger. C'était véritablement un jeu magique. Je pense simplement que, de même qu'au jardin, ce premier contact avec l'idée d'infini avec lequel joue un enfant, d'un jeu au milieu duquel il ne voudrait pas être surpris pour rien au monde, à quelque chose de sacré. En ce sens que le jeu est accompagné d'angoisse, ne se produit qu'à certaines heures, au moment où l'on sait qu'il n'y a personne, et prend l'allure d'une sorte de méditation vivante. État ressurgit comme souvenir dans certains moments suraigus de ma vie. La permanence de cette sensation fait bien penser à ce heurt, d'une part éternelle de soi-même avec l'univers. Mais il y manque, 1. La notion de mort, cependant présente par sensation physique. 2. Le partage avec d'autres. Un souvenir qui me semble résumer complètement ma notion du sacré. Cela relève de la foi pour laquelle on se sent prêt à mourir. Cela a trait au départ de mon père pour le front, départ particulièrement tragique par le fait de circonstances étranges à expliquer. Et qui provoqua en moi un état d'exaltation totale, fait de pressentiments certains, de sacrifices consentis d'avance, et devant le visage même du sacrifié. Cela, à 11 ans, mêlé au chant d'une foule en délire, chant auquel je mêle ma voix qui par moments s'éteint brusquement, bouleversement physique total. Incapacité de reprendre la vie physique pendant plusieurs jours. Je hurle la Marseillaise et le chant du départ durant des journées entières. Une compagne de cours, rencontrée dans le métro, revêtue d'habits de grand deuil parce qu'ayant perdu son père, me fait honte. Je rejoins la notion des sociologues. Le sacré mêlé au social pour que cela soit sacré. Pour que cela soit, il faut à mon sens que cela soit ressenti par les autres, en communion avec d'autres. Imaginez une corrida pour vous tout seul. J'ai besoin du public. L'œuvre poétique est sacrée en ce qu'elle est création d'un événement topique, communication ressentie comme la nudité. Elle est viol de soi-même, dénudation, communication à d'autres de ce qui est raison de vivre. Or, cette raison de vivre se déplace. Ce qui m'affirme assez fortement pour nier les autres. Thank you.
je crois, vécu d'une manière qui est comme une guérison. Tout se passe, et c'est de nouveau un projet très Nietzsche qui me touche beaucoup, c'est comme si l'art voulait se guérir d'une maladie, elle est malade, mais d'une maladie qui est la famille, et d'une maladie qui est son mutisme dans un monde où tous ses amis parlent.
Oui, elle parle tout le temps la difficulté d'avoir un rapport vrai.
Oui.
Et elle n'arrive pas à avoir ce rapport vrai. Elle se sent toujours à côté. Tout est toujours faussé. Et c'est ça qui la mine et qui l'obsède. Je reviens encore à mon idée de tauromachie. Comme le torero, là, il a un rapport vrai avec le taureau. Il est là, en face. Les cornes.
Oui. Mais il y a alors un double mouvement. L'image même de la corrida, il y a une image de jeu, et même une image de dérision de soi-même joueur.
Et puis il y a l'image érotique aussi.
Il y a l'image érotique, et il y a quelque chose de l'idée de l'affirmation de la mort et de la vie joyeuse.
C'est ça.
Et le côté affirmatif me semble important. Enfin, je retrouve un texte ici où il ne dit rien qui ne relève d'un cri de joie, compréhension, de fierté. Supprimer les jérémiades et tout ce qui ne relève pas de l'agressivité heureuse des 14 ans. Rien qui ne soit un cri de joie ou de fierté. Brûler tout ce qui ne relève pas de cela.
C'est ça.
Donc c'est le côté, finalement, l'affirmation à laquelle on aboutit. Affirmation qui fait sortir de la solitude.
Je dis qu'il y a aussi chez l'or, je ne sais pas si c'est une nostalgie, ça ne doit pas être une nostalgie, mais il y a l'enfance qui est là aussi comme un thème très présent, je crois, qui va dans ce sens de l'affirmation dont tu parles.
Tu as raison, dans la phrase que j'ai citée, elle dit l'affirmation joyeuse enfin, de ses 14 ans.
C'est ça.
Justement, cette époque est évoquée. C'est comme s'il y avait un moment de repli et de solitude. Un moment réfractaire, où il était plus elle-même, dans sa famille, mais seul, que hors de sa famille, et avec les êtres bien-pensants qu'elle pouvait rencontrer. Et le problème serait de retrouver de solitude pareille dans ce milieu-là, et elle n'y parvient pas. Il y a aussi quelque chose chez elle qui rappelle ce mouvement d'enfance et de refus obstiné de l'enfance, c'est l'opposition en soi, contre toute tendance à la sécurité et à l'autosatisfaction. Donc la corne du taureau tournée non pas au dehors, mais au dedans. Alors, il y a par exemple ce texte qui me semble résumer beaucoup de choses. C'est en soi-même qu'on porte l'oppositionnaire le plus dangereux. Celui qui force à dépasser ce qui a été, ce qui est. Celui qui nie le lendemain, le futur. Celui qui ne peut coexister avec le sentiment de sécurité. Avec l'assurance contre la vie, avec la paix chez soi. Celui qui pousse au large les êtres humains, comme le vent, enfle la voile, celui qui les détache du rocher auquel ils s'agrippaient, de la branche à laquelle ils se raccrochaient, hier encore. Alors ce refus de la patrie, finalement, que ce soit la famille,
mais parce que la tendresse, elle parle au monde, la tendresse, elle dit que la tendresse, c'est une espèce d'excuse, une espèce d'avouissement, finalement. Et elle parle d'une vie ouverte, juste auparavant, le saut dans le vide, le tenter, et on revient à la vie infantile, celle qui n'a pas nié, disparité constante, veulerie, tartufferie. C'est en soi-même qu'on porte l'oppositionnaire. Tout ce qu'elle dit auparavant est très intéressant, parce qu'elle relie ce que tu viens de dire, à son expérience. C'est toujours ce point sur lequel moi j'en viens parce que je le trouve...
Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre. Et c'est cette contradiction qui me touche aussi chez Laure. C'est que cette femme très dure, qui se méfie de la tendresse, du bavardage, de l'amitié, de tout, qui est une espèce d'iconoclaste pour elle-même, qui pratique la grande suspicion de Nietzsche à l'endroit de soi, est habitée par un désir de ce qu'elle appelle la simple vie. La vie telle qu'elle est.
Les plantes.
Les plantes, oui. Bien oui, il y a un texte très beau, je l'ai noté ici, où il dit « L'existence humaine est sans prix, sans plus moins de prix que tout ce qui existe, végétal, minéral, animal, tout ce qui brille, hurle, brame, gémit, barrissement d'éléphant, mugissement de vache. »
C'est ça.
Et alors là, nous sommes dans une espèce de monde élémentaire, cosmique mais élémentaire, où tout est là. Il y a une espèce de rêverie de l'évidence. Mais ces moments de paix sont
gagner de la lutte.
Les textes de Laure sont tous autobiographiques.
Mais là, je crois qu'il faudrait s'entendre sur le mot autobiographie. C'est pour ça que je me sentais plus à l'aise dans les textes sur le sacré que dans le texte l'histoire d'une petite fille, qui, eux, ont un caractère plus traditionnellement autobiographique, ce qui veut dire que c'est pas un beau texte. Si Laure est pour elle-même le sujet de sa propre réflexion, ce n'est pas dans un état de complaisance narcissique, mais dans un but peut-être de dire cette espèce d'intime qui est au-delà du jeu intime, le reliement même avec l'autre. Enfin, comme si le plus propre, le plus difficilement disible, était le lieu même de l'universel vécu. Et là, il y a plein de textes. Elle dit, par exemple, et ça me semble un passage important, continuer, c'est comme si elle s'interrogeait, est-ce que je continue à écrire ou non ? Continuer. Oui, il me faut pour moi et les autres, pour éclaircir le malentendu. Le malentendu, je crois, biographique, je
sais. C'est à ce moment-là qu'elle parle d'un journal rétrospectif.
Elle veut dire tout, arrêt subi et reprise, sous une autre forme d'un journal rétrospectif. Et le journal rétrospectif, c'est pas uniquement un déroulement de la complaisance, où on dirait voilà comment j'étais à 4 ans, voilà comment j'étais à 6 ans, 12 ans, mais c'est peut-être pris de la fiction de l'intime, une lecture critique extrêmement dure d'un soi qu'on a été pour devenir autre. Arrêt subi et repris.
Un rappel à l'ordre, elle se rappelle elle-même à l'ordre. À son ordre.
Mais c'est pour continuer.
Mais pour continuer, pour dépasser.
Pour aller plus loin, toujours plus loin, etc. Donc au fond, l'autobiographie devient une espèce de lecture vitale pour dépasser les limites.
C'était Fragments de l'or, une émission de Jérôme Peignot et Michel Cohen, avec aujourd'hui la participation de Jacques Seucher. Extrait lu par Florence Delay. Prochaine émission, le mercredi 23 février, assistante de réalisation, Jacqueline Clancier.